Et c'est la seconde partie de Restons Courtois que vous pouvez continuer à suivre sur YouTube, que vous pouvez continuer à suivre sur X. Vous pouvez nous écrire à courtoisie@rc.fr. Et si Claudia a la gentillesse de rappeler le numéro de téléphone, ça m'évitera de le faire parce que une fois de plus, je l'ai oublié. Et donc, et Louise pourra décrocher. Donc, c'est le...
C'est le 01 50 46 51 00 85.
01 46 51 00 85. Voilà, et donc vous pouvez nous adresser vos messages et nous les lirons à l'antenne. Après Marc Doyer, donc, qui a courageusement décidé de partir en guerre contre Pfizer et au passage dérafler un peu l'État français, nous recevons Nicolas Bay qui mène d'autres combats, mais aussi des combats cruciaux au
Bonsoir.
Parlement européen. Donc, bonsoir Nicolas Bay. Donc, on vous a connu à droite, et puis on vous a connu à droite, on vous a encore connu à droite. Vous êtes de droite, c'est très clair. Mais vous avez fait, vous avez parcouru presque tous les chiquiers des partis de droite français. Racontez-nous un peu comment est-ce que vous êtes arrivé aujourd'hui à être eurodéputé sans parti, si je ne m'abuse, mais dans le groupe ECR.
Écoutez, j'ai un parcours à la fois classique et original à sa façon. Classique parce que je suis un militant du camp national, pourrait-on dire, depuis l'adolescence. J'ai commencé très jeune, engagé militant, colleur d'affiches, tracté sur les marchés, etc. à partir de 14 ans, la campagne de Maastricht en 92, c'est là que j'ai commencé dans les rangs du Rassemblement National, qui était le Front National à l'époque. Et puis ensuite, effectivement, la vie de ce courant de pensée en France, c'est aussi parfois des tensions, des conflits, des ruptures que les militants ou les cadres subissent en partie. D'ailleurs, ils n'en sont pas forcément les instigateurs. Et donc, au moment où il y avait eu cette scission dans les années, à la fin des années 90 entre Jean-Marie Le Pen et Benoît Maigret, j'avais suivi la démarche de Benoît Maigret parce que j'avais le sentiment qu'elle pouvait, elle pouvait être de nature à créer les conditions d'un rassemblement plus large que celui du Front National à l'époque, avec un objectif qui était de faire gagner nos idées. Parce que finalement, c'est quand même ça l'objectif de l'action politique, c'est pas de se cantonner à des postures de témoignage, c'est de parvenir à la victoire, et à la victoire électorale, en l'occurrence, quand on est dans le champ de l'action électorale. Et puis ensuite, cette aventure maigrettiste ayant fait long feu, j'ai œuvré en créant un mouvement qui s'appelait Convergence Nationale, au rassemblement vers le Rassemblement National, qui trouvait avec Marine Le Pen une nouvelle dynamique. C'est le moment où elle a pris les rênes de ce parti. Et puis j'y ai occupé beaucoup de responsabilités. J'en étais un des dirigeants, secrétaire général et vice-président. Je suis député européen depuis 2014. C'est mon troisième mandat aujourd'hui. Et en 2022, lorsque Éric Zemmour s'est lancé dans la campagne présidentielle, avec un certain nombre d'autres, avec Marion Maréchal, qui elle avait déjà pris un peu de champ à l'égard du Rassemblement National depuis quelques années, mais aussi avec des gens comme Stéphane Ravier, on a considéré que cette candidature d'Éric Zemmour pouvait être un peu un catalyseur de ce rassemblement des droites. Il faut être clair, quand on parle d'union des droites, c'est pas une espèce d'objectif en soi. C'est plutôt une condition nécessaire, mais pas suffisante. Et aujourd'hui, on a fait le constat que voilà, Éric Zemmour a finalement, malgré le fait qu'il ait un peu professé cette union des droites, bah, finalement, il préfère un peu avoir sa petite chapelle à lui. Hein, voilà, c'est peut-être un peu la maladie endémique, d'ailleurs, de notre courant de pensée. Mmh. Un jour, je me souviens, dans une discussion comme ça, un peu informelle, Jean-Marie Le Pen me disait « Le problème, le drame de la droite nationale, disait-il, c'est... trois bonhommes, deux mouvements. » Bon, voilà, c'est vrai. Et d'une certaine manière, tous ceux qui ont été acteurs de cette famille politique depuis des années ont un peu contribué à ça, et j'en prends ma part d'ailleurs volontiers. Mais voilà, aujourd'hui, on voit bien quoi ? On voit bien qu'à la fois, dans l'opinion publique, il y a sans doute une majorité autour des idées principales que nous défendons. Préserver notre identité, restaurer la sécurité, restaurer les grandes libertés, notamment les libertés économiques. Voilà. Et... un vaisseau amiral qui est le Rassemblement National, qui est une force politique avec un poids considérable, mais une force politique qui seule n'est pas aujourd'hui en situation de gagner. Et c'est, je le dis avec beaucoup d'amitié et d'affection pour tous les dirigeants cadres du Rassemblement National. Donc il y a une nécessité, c'est d'élargir encore plus. Alors ça a été en partie fait hein, ces dernières années, il faut le saluer d'ailleurs. Hein. C'est un peu nouveau parce que ce n'est pas la culture de cette famille politique avec Éric Ciotti. Et c'est ce que nous faisons aussi avec Marion Maréchal. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs au Parlement européen. Et j'en arrive, excusez-moi d'avoir été un peu long.
Non, mais c'était ma question, donc au contraire, pas du tout.
La question de départ, c'est qu'au Parlement européen, eh bien, nous sommes aujourd'hui quatre Français avec Marion Maréchal, Guillaume Pelletier et Laurence Trochu, assiégés dans le groupe des conservateurs et réformistes européens, donc qui n'est pas le même groupe que celui dans lequel siègent les députés du Rassemblement National, mais nous travaillons ensemble. ensemble. Et le but, c'est quoi? C'est d'essayer de constituer des majorités au Parlement européen. Nous, nous sommes dans un groupe qui est dominé par les Italiens de Giorgia Meloni. C'est aujourd'hui la figure de proue en Europe, voilà, d'une Europe très différente, hein, d'une Europe qui repose sur des nations libres et souveraines. Et aussi sur une vision civilisationnelle, parce que c'est ça que nous voulons porter principalement au Parlement européen. Le vrai enjeu est là. Est-ce qu'on continue une Europe technocratique qui bride les nations et les peuples, ou est-ce qu'on construit une Europe à la hauteur du génie de notre civilisation et qui est capable de faire rayonner nos peuples et nos nations et de les projeter dans l'avenir, alors qu'aujourd'hui on est en plein risque de déclassement. Et on est même au-delà du risque, on est en cours de déclassement, voilà, sur la scène mondiale. Donc voilà, on y travaille au Parlement européen. Alors, évidemment, tout se fait pas en un jour, mais enfin, on est quand même passé, comme quand je suis arrivé en 2014 au Parlement européen, il y avait un bloc très solide entre la gauche, les socialistes, la fausse droite, c'est-à-dire le PPE, et le groupe Renew, qui était celui des macronistes au Parlement européen. Et eux, ils avaient une majorité écrasante à E3, et ils décidaient de tout, et ils étaient d'ailleurs d'accord à quelques nuances près sur tout. Voilà. Et les autres, à commencer par nous, étions cantonnés à un rôle d'observateur amer, de témoignage. On expliquait, on disait la vérité sur ce qui se préparait et ce qui se passait, ce qui est déjà pas négligeable. Hein. Lever un peu le voile de l'opacité, hein, sur ce qui se passe dans les décisions, parce que c'est souvent un peu confus, hein, tout ce qui se passe à Bruxelles. Donc, pas forcément facile de le décrypter pour les électeurs français, mais voilà, on était cantonnés à ce rôle-là. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, à condition qu'au moins une partie du PPE fasse preuve d'un peu de courage, ce qui n'est pas toujours le cas, mais ils ont aussi la pression de leurs électeurs et qu'ils veulent essayer de les conserver pour être élus, donc ça les pousse quand même à être raisonnables, et bien on arrive parfois à dégager des majorités. Et le groupe ECR dans lequel nous siégeons, voilà, avec les Italiens de Giorgia Meloni, avec les Polonais du Parti Droit et Justice, on a 19 nationalités, et bien on est un peu dans ce rôle pivot qui permettent ce rassemblement des droites. Alors voilà, on a obtenu, là vous voyez récemment, c'est comme ça qu'on a obtenu un peu le détricotage du pacte vert, c'est-à-dire des mesures de simplification. Ça va à l'opposé de tout ce qu'a fait la Commission européenne depuis des décennies quand même. Hein. La Commission européenne est une machine à fabriquer des normes toujours plus contraignantes, plus lourdes, qui brident notre compétitivité. Et puis en même temps, elle fait des accords de libre-échange qui empêchent de protéger notre marché. Bon, bah là, on a enclenché une nouvelle dynamique, hein, qui n'est pas encore assez grande, pas encore assez forte, qui ne va pas assez vite. Hein, je dis ça avec évidemment prudence, mais malgré tout, de la simplification des normes qui, évidemment, sont des bonnes nouvelles pour nos agriculteurs, pour nos industriels, pour nos entrepreneurs. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Mais ça montre que, sans doute, que réorienter l'Europe, c'est un travail de fond qui est loin d'être achevé et qui ne fait même que débuter, mais qui est possible. Voilà. Et peut-être que je m'attirerai en disant ça les foudres des partisans du Frexit, mais moi j'ai toujours pensé que cette idée du Frexit était un peu une idée qui peut être séduisante sur le papier, mais qui est en réalité un peu théorique, parce qu'une fois qu'un pays sort de l'Union européenne, les Britanniques l'ont expérimenté, eh bien ça ne règle pas fondamentalement leurs problèmes. Et comme on a des intérêts communs avec les autres nations européennes, on n'a pas que des intérêts communs, on a aussi parfois des intérêts concurrents, mais on a quand même beaucoup d'intérêts communs, à commencer par la préservation de notre civilisation, à commencer par la protection de nos frontières extérieures, à commencer par la nécessité de peser sur la scène mondiale collectivement, à défaut de pouvoir le faire individuellement. Eh bien tout ça, ça nécessite des politiques, et donc il vaut mieux se dire que construire une Europe politique qui respecte les nations, et le faire avec des orientations politiques nouvelles, et si possible, ce sera un peu la deuxième étape non moins nécessaire, c'est dans un autre cadre, c'est un cadre plus démocratique, c'est à sortir du schéma où on fait tout à 27, avec la Commission européenne qui décide de tout, et ça nécessiterait une vraie réforme des traités, c'est aussi ça que nous portons. Nous sommes dans le groupe des conservateurs et réformistes européens, ça définit assez bien ce que nous sommes, à la fois on est vraiment européens, on n'est pas dans une espèce de démarche de repli sur soi, comme parfois nos adversaires nous en font le grief. On est résolument européens, conservateurs, parce que conscients qu'on est les héritiers d'une civilisation, elle ne nous appartient pas, on ne doit pas utiliser notre civilisation comme si on pouvait en disposer librement. On est humblement des héritiers et on a un devoir d'embellir et de transmettre. Voilà, c'est une philosophie politique. Et puis, réformiste, on est conscient que cette Europe, elle suscite légitimement la colère des peuples. l'exaspération même, quand il voit von der Leyen sans aucune vraie légitimité démocratique, il décide de tout, etc. Il y a une exaspération légitime quand elle va signer un accord de, commercial de libre-échange avec les pays du Mercosur qui risque de tuer notre agriculture. Elle le fait de manière autoritaire en profitant d'un, du marasme en politique française. Elle court à Montevideo, elle signe l'accord. Bon, on voit bien que ce fonctionnement-là, il n'est pas acceptable. Et donc, réformer l'Europe, c'est quoi ? C'est finalement, comment dire, remettre les nations et donc les gouvernements qui ont la légitimité démocratique au cœur d'un projet européen, faire de l'intergouvernemental, ne pas chercher à, tout, à vouloir tout faire à 27, ce qui est d'abord très compliqué, souvent trop long pour être réactif dans les crises, et peu efficace et peu satisfaisant, parce que quand vous voulez tout faire à 27, vous faites du plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est totalement satisfait.
Nicolas Bay, vous, vous avez...
Alors, et pour la deuxième réponse, un peu plus court.
Défendre l'Europe, c'est contrôler l'immigration, c'est l'un de vos récents messages. Hein. Face à la pression migratoire actuelle, quelles mesures concrètes proposez-vous au niveau européen pour renforcer les frontières extérieures ?
Alors d'abord, je pense qu'il y a une chose qu'il faut éviter, qu'il faut combattre, c'est l'idée du fatalisme dans ce domaine. Et, et cette idée du fatalisme, elle domine souvent, par facilité d'ailleurs, les débats. On nous dit « non mais on ne peut pas faire autrement ». Il n'y a pas d'autre solution que d'accepter. Et puis, on nous explique des choses totalement fausses, qu'il y a toujours eu des mouvements de population, etc. Alors, il y a toujours eu des mouvements de population, mais des mouvements de population d'une telle ampleur, il n'y en a pas eu tant que ça dans l'histoire et a fortiori dans notre histoire. Et la vérité, c'est qu'on sait que les civilisations sont mortelles. Et donc, on est conscient qu'on a une civilisation extraordinaire avec la civilisation européenne et chrétienne. Mais si demain, on continue à avoir, par exemple, dans un pays comme la France, de 170 millions d'habitants, 500 000 ans, très légal par an, parce qu'on est à ce niveau-là actuellement, 350 000 titres de séjour, 140 ou 150 000 demandes d'asile, plus l'immigration clandestine, plus les mineurs isolés, on est autour de 500 000 et peut-être sans doute un peu au-delà. Bon, bah, en quelques décennies, vous êtes remplacés. Voilà. Donc en fait, c'est quand même ça le sujet. Donc dire que... Alors un, il y a un problème, on ne peut pas dire que ça n'est pas un problème, et deux, ça n'est pas une, comment dire, une fatalité. C'est pas, bien sûr qu'il y a une situation qui nous est défavorable, une natalité européenne qui est trop faible et un continent africain qui est en explosion. 1 milliard d'individus aujourd'hui, 2,5 milliards à un siècle d'échéance. Donc, ça nécessite une réponse qui est multiple. Bien sûr qu'il ne suffit pas de dire demain matin, on ferme nos frontières et le problème est réglé. Et c'est, quand j'entends certains dire on ferme les frontières nationales, bon, tout ça est un peu illusoire. En réalité, il faut une réponse à différents niveaux. Il faut, un, être capable, quand c'est nécessaire, de rétablir des frontières nationales. On l'a fait pendant le Covid. Donc, quand on nous explique que c'est plus possible avec Schengen, c'est un mensonge. C'est parfaitement possible.
Et même François Hollande a fermé mais plus de 15 fois les frontières nationales hors Covid.
Bien sûr, il y a régulièrement, mais regardez l'Allemagne. Le chancelier actuel a fermé les frontières à cause des flux migratoires incontrôlés. Bon, donc, c'est parfaitement possible. Il faut surtout, si on veut préserver un espace de libre circulation européen homogène, protéger les frontières extérieures. Et donc, ça nécessite de mettre des moyens. Il y a des situations diverses, mais l'immigration clandestine, elle arrive principalement par trois canaux, hein, par l'Espagne, par l'Italie et la Grèce, et par la route des Balkans. Voilà, il y a deux grandes routes maritimes et une grande route terrestre. Hein. Voilà, c'est ça le schéma général. Bon, bah, il faut l'utilité de l'Europe, par exemple, ce serait, et c'est ce que ne veut pas faire pour l'instant von der Leyen, malgré le fait que 17 ministres de l'Intérieur sur 27 lui ont demandé quand même, eh bien, ce serait de mettre des moyens importants, donner des moyens supplémentaires à Frontex, par exemple, pour avoir un vrai corps de garde-côtes et de garde-frontières européens pour protéger efficacement les frontières. Mais il est évident que ce n'est pas parce qu'on a... Le plus efficace, ce n'est pas d'attendre que les clandestins arrivent sur nos rives ou à nos frontières terrestres pour les refouler. Le plus efficace, c'est d'éviter qu'ils viennent.
C'est de les fixer sur place.
Et pour les éviter qu'ils viennent, il y a deux choses. Il y a un, cesser de leur faire croire qu'il y a un Eldorado européen, c'est-à-dire les dissuader de tenter, par exemple, la traversée. Aujourd'hui, pourquoi ils viennent ? Pour deux raisons principales. Un, parce qu'ils savent que s'ils posent le pied sur le sol européen, ils ne seront probablement pas expulsés. Et c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est débouté du droit d'asile, il n'est pas expulsé, puis on passe notre temps à régulariser les clandestins, alors qu'on devrait rendre impossible dans la Constitution la possibilité de régularisation, de sorte que celui qui vient a qu'une certitude, c'est de partir. peut-être pas immédiatement si on l'attrape pas tout de suite, mais en tout cas de partir. Et c'est ça qui serait évidemment dissuasif. La deuxième chose qui le fait venir, c'est qu'il y a des mafias de passeurs qui sont organisées, qui les... voilà. Et donc il faut combattre les mafias et il faut modifier le droit de sorte qu'il n'y ait aucune possibilité d'entrer illégalement et de rester ensuite.
Pardonnez-moi Nicolas Bay, il y a peut-être un troisième moyen aussi. Pourquoi ne pas aider les peuples à garder leurs ressortissants?
Alors, c'est ce que j'allais dire, et le troisième volet, en quelque sorte, c'est exactement ça. C'est faire en sorte qu'il n'y ait plus ces flux du sud vers le nord, puisqu'il s'agit principalement de cela. Eh bien, comment il faut faire? Il faut à la fois, sans doute, que les demandes d'asile, par exemple, soient traitées dans des pays tiers. C'est ce que fait Giorgia Meloni avec l'accord avec l'Albanie, par exemple. C'est-à-dire faire en sorte qu'on n'attende pas que les migrants arrivent sur le sol européen, fassent leurs demandes. Ils peuvent parfaitement le faire dans un consulat Schengen hors de l'Union européenne. Et puis, surtout, créer les conditions pour qu'ils restent dans leur pays d'origine. Et pour ça, il faut nouer des partenariats avec les pays, cesser le saupoudrage pour se donner bonne conscience et entretenu par la culpabilité sur notre passé colonial, etc. Mais faire des partenariats gagnant-gagnant. C'est-à-dire, par exemple, si on veut développer l'économie africaine, il faut renforcer toutes les infrastructures qui sont les conditions du développement économique, c'est-à-dire infrastructures routières, ferroviaires, télécommunications, numériques, etc. Et à commencer par l'électrification, parce qu'il y a une partie importante de l'Afrique où il y a un manque considérable dans ce domaine. Bon, si on met de l'argent là-dedans, eh bien, il faut qu'en contrepartie, ce soit aussi des entreprises françaises qui en tirent les bénéfices, par exemple, ou des entreprises européennes, si c'est de l'argent qui est mis à l'échelle continentale. Mais sortir de la logique où on donne de l'argent qui, pour une bonne part, n'arrive pas à destination, puisque la corruption est endémique dans certains pays, et donc l'argent n'arrive pas au bénéfice direct de l'économie réelle, bien souvent. Et puis, on se donne bonne conscience en faisant ça. Et puis, dans le même temps, on n'a même pas des clauses qui garantissent le contrôle des flux d'émigration du sud vers le nord. Donc, normalement, dès qu'on, par exemple, quand la France met des millions ou des dizaines de millions même pour payer le métro d'Abidjan, eh bien, l'une des clauses qui doit être automatique dans le contrat, c'est que la Côte d'Ivoire s'engage à contrôler ces flux de Côte d'Ivoire vers l'Europe, et surtout, automatiquement et sans qu'il y ait besoin d'un laissez-passer consulaire, il y a une récupération automatique de leurs ressortissants quand on veut les expulser. Voilà.
Alors, vous plaidez pour libérer les entreprises aussi du carcan réglementaire imposé par la Commission européenne. Quelle réglementation spécifique visez-vous en premier?
Alors là, si on les cite tous, ce sera long. Mais
en premier, en tout cas.
moi, dans mon précédent mandat au Parlement européen, c'était le fameux mandat du Green Deal. Donc on repeint tout en vert, c'était l'opération d'Ursula von der Leyen, expliquant que sous prétexte climatique, eh bien, on va imposer des normes toujours plus élevées à nos entrepreneurs. Et donc le résultat, c'est que quand on impose des normes aux entreprises, on impose des coûts. Voilà, et donc on les empêche d'être compétitives. C'est aussi simple que ça. Quand je dis prétexte environnemental, c'est parce que très souvent, on se donne bonne conscience, là encore, mais en réalité, ça n'a pas d'efficacité réelle pour améliorer l'environnement. Ça n'a pas d'impact réel sur la sécurité alimentaire. Voilà, tout ça, ce sont souvent un peu des artifices destinés à le faire accepter par l'opinion publique, à forcer la main aussi souvent un peu des parlementaires, y compris ceux qui sont réticents, et tout ça dans une démarche très idéologique. Voilà, il faut sortir de cette démarche idéologique. Les grands enjeux écologiques, climatiques, on les relèvera grâce à la science et à la technique comme on l'a toujours fait dans l'histoire, et pas en s'infligeant des normes que par ailleurs personne ne respecte dans le monde. Et comme on est en économie ouverte, si on s'inflige des normes plus élevées que les autres, eh bien on obère directement notre compétitivité. Donc c'est absurde. Alors les exemples, on pourrait en citer. Oui, par exemple, j'étais hier au salon de l'agriculture, j'ai rencontré nos producteurs de bananes que je connais bien, de Martinique et de Guadeloupe. Bon, on leur impose, l'épandage aérien est interdit, et on leur impose aujourd'hui l'interdiction, pour l'instant en tout cas, d'utiliser des drones qui permettent de faire de mettre des produits phytosanitaires en quantité très faible, extrêmement faible, qui permettrait d'avoir à la fois une bonne qualité et un bon rendement dans la production de bananes. Voilà. Et on voit bien que dans le même temps, on a les pays d'Amérique du Sud, avec la banane dollar, qui ne respectent aucune de ces normes-là. Eux, ils font de l'épandage aérien massif, ils utilisent des produits phytosanitaires qui sont interdits en Europe, dans des quantités, des volumes qui sont colossaux. Mais, dans le même temps, on signe un accord commercial de libre-échange avec les pays du Mercosur. Donc, le résultat, c'est que notre banane antillaise, elle vient, elle va venir frontalement en concurrence avec des bananes venant d'Amérique du Sud. Voilà. C'est un exemple parmi d'autres, mais dans le fameux Green Deal, il y a eu en tout 34 paquets législatifs, hein, donc c'est considérable, c'est des milliers de votes au Parlement européen, avec les amendements, les différents paragraphes, etc. Mais enfin, le résultat, c'est qu'on a infligé des normes très nombreuses. L'une des plus emblématiques a été la fin de la voiture thermique à échéance de 2035. Alors, c'est un des combats qui est en cours pour repousser ou annuler cette échéance. Mais depuis quelques mois, en tout cas, on a essayé d'enclencher des omnibus de simplification. Excusez-moi d'utiliser le jargon bruxellois, mais c'est finalement
des omnibus, c'est-à-dire qu'en fait, vous mettez des paquets législatifs en faisant grimper tout le monde, si j'ose dire.
Ce sont en quelque sorte des processus qui visent à abroger certaines dispositions existantes ou à simplifier ou à réduire le niveau des normes.
Mais qui ne sont pas, c'est pas un omnibus uniquement sur le transport.
Non, voilà. C'est ça.
En fait, on fait tous les cavaliers législatifs, comme on dirait en France, ont le droit de grimper dans l'omnibus et d'arriver à bon port.
On n'en est pas totalement là. Et c'est souvent le détricotage est malheureusement plus long que le tricotage. Hein. C'est-à-dire que abaisser les normes inutiles, coûteuses, pour redevenir un peu compétitif, est beaucoup plus long que les normes qu'on a imposées. Et puis, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a les normes qui sont mises en place à Bruxelles, et puis ensuite, il y a ce qu'en font les États. Et la catastrophe, c'est que la France, on l'a souvent dit, et ça a été évoqué dans la campagne européenne il y a 2 ans, la France, elle surtranspose. Alors qu'il y a beaucoup de pays qui font le contraire. Mmh. Quand il y a une norme, je vous donne un exemple très concret, les néonicotinoïdes. Sur la betterave à sucre. Ils ont été interdits à une échéance donnée par Bruxelles. Et la France, au lieu de dire on attend cette échéance-là, jusque-là, on peut continuer à le faire, et puis après, on fera différemment. La France, elle a voulu être le meilleur élève de la classe en disant de toute façon, on va devoir en passer par l'interdiction. Et donc, dès maintenant, on va l'interdire. Le résultat, c'est que les Allemands, eux, qui sous-transposent et qui, quand ils ne sont pas satisfaits, essayent de faire repasser les plats à Bruxelles et de remettre le débat à l'ordre du jour, eh bien, eux, ils continuent d'utiliser ces produits-là. Et nous, quelques dizaines de kilomètres plus loin, de l'autre côté de la frontière, on ne peut plus les utiliser. Et donc, nos agriculteurs sont en concurrence déloyale intra-communautaire, parce qu'on parle beaucoup de la concurrence. Notre industrie qui a été tuée parce que la concurrence chinoise avec l'abaissement des droits de douane, c'est vrai. Mm-hmm. L'agriculture avec le Mercosur, qu'on évoquait tout à l'heure, c'est vrai. Mais il y a aussi la concurrence déloyale intra-communautaire. Avec, par exemple, le détachement des travailleurs qui permet de payer avec les charges sociales de la Roumanie ou de la Bulgarie des travailleurs roumains ou bulgares sur nos chantiers français. Moyennant quoi, évidemment, c'est beaucoup plus avantageux pour un entrepreneur d'embaucher un bulgare ou un roumain que d'embaucher un français sur son chantier. Et donc, en réalité, ils ont fait pour les activités non délocalisables, c'est le cas évidemment du BTP, mais c'est le cas aussi de la restauration, ils ont organisé une sorte de délocalisation à domicile, en quelque sorte. Voilà. Donc, c'est aussi ça. Il y a aussi cette concurrence déloyale-là qu'il faut régler. Donc, il faut, si on résume sur ces grandes questions économiques, il faut à la fois libérer considérablement, alléger les normes, et puis, et là, c'est plus de la politique nationale, il faut bien le dire, abaisser la fiscalité, parce que la France, ce qui fait que la France est moins, souffre davantage. Il y a des pays qui ne sont pas opposés du tout à des accords de libre-échange parce qu'eux, ils ont des niveaux des coûts de production qui sont raisonnables. Mais nous, ça n'est pas le cas. On a 47% de notre PIB en prélèvement obligatoire. On est un des pays les plus imposés au monde. Donc voilà, si en plus on ajoute des normes européennes à cette fiscalité qui est confiscatoire, eh bien on ne peut plus lutter contre personne. Et le problème, c'est que si vous voulez avoir des coûts de production très élevés, des normes très contraignantes. Mais vous êtes en économie fermée, vous êtes la Corée du Nord. Bon, vous pouvez toujours le faire, mais vous êtes en économie fermée. Mais si vous êtes en économie ouverte avec des accords commerciaux avec le monde entier, eh bien, à ce moment-là, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'être compétitif. Et vous ne pouvez pas imposer à vos acteurs économiques des normes qui ne sont pas imposées en face.
Nicolas Bay, vous avez obtenu plutôt une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne sur le passage en force de l'accord Mercosur. Que comptez-vous faire pour le bloquer définitivement ?
Écoutez, ça fait partie de la guérilla, en quelque sorte, là, contre cet accord commercial. Aujourd'hui, il a été mis temporairement en œuvre. Enfin, c'est ce que tente de faire von der Leyen. Vous savez que la, La politique commerciale est une compétence directe de l'Union européenne. Donc, elle peut avancer dans les négociations sans, associer les États membres. Et elle a même la possibilité de mettre en œuvre temporairement les accords sans la ratification par les États membres. Et puis, elle multiplie les subterfuges. Par exemple, elle veut faire adopter par les parlements nationaux non pas le texte commercial dans ses aspects les plus sérieux, les plus graves, les plus lourds de conséquences. Hein. Par exemple, les quotas de sans droits de douane en matière de viande, d'élevage ou certains produits agricoles. Elle veut mettre uniquement le volet politique du texte, qui est relativement anodin ou symbolique. Voilà. Donc il y a comme ça des manœuvres. En pleine crise sanitaire, la Commission européenne, c'était Juncker à l'époque, continuait de signer des accords commerciaux, des accords de libre-échange avec le monde entier, parce que c'est une espèce de culture bruxelloise du mondialisme heureux, que plus personne d'ailleurs n'imite nulle part sur la planète. Hein. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, tous les grands ensembles protègent leur économie, l'Inde, le Japon, la Chine, les États-Unis, évidemment. Et donc, on est les seuls à continuer dans cette espèce de schéma du libre-échange. Alors, pour répondre à votre question, là, aujourd'hui, puisque von der Leyen essaye de passer en force, on a essayé au Parlement européen et on a obtenu, d'ailleurs, c'est quand même une belle victoire qui s'est jouée à pas grand-chose, en nombre de voix, dans l'hémicycle à Strasbourg, eh bien, de saisir, en effet, la Cour de justice sur un certain nombre d'aspects juridiques de cet accord. Le problème, c'est que la saisie ne bloque pas l'accord. Voilà, il n'y a pas d'effet suspensif de la saisine. Mais voilà, et donc on va multiplier les actions comme ça pour essayer d'empêcher que cet accord soit effectivement mis en œuvre, parce qu'on sait aussi que la stratégie de Bruxelles, c'est souvent de mettre en œuvre temporairement. D'en minimiser les aspects négatifs pour que ça finisse par être accepté. Et puis ensuite, quelques années plus tard, on se rend compte de tous les méfaits de ces accords commerciaux.
Alors, vous étiez au Salon de l'agriculture hier avec vos collègues eurodéputés. Quelle est l'ambiance comment les agriculteurs vous ont reçu? Et quelle est l'ambiance qui est un peu particulière cette année au Salon, puisqu'il n'y a pas d'éleveurs bovins? C'est la première édition.
Il y a une vache virtuelle.
Oui, alors bon, il y a une raison, il faut être tout à fait honnête et complet sur ce point. Il y a en raison d'une maladie
dont
on a beaucoup entendu parler.
Mais qui a fait beaucoup de bruit.
Et donc c'est une prudence, une précaution qui a été prise par les services vétérinaires.
S'il faut être absolument honnête, on a le droit de dire qu'Emmanuel Macron voulait quand même qu'il y ait des vaches. Et que les agriculteurs ont refusé d'en passer par les caprices du président, qui, après leur avoir fait éliminer leurs troupeaux, voulait absolument que ça fasse partie du décor.
Absolument.
Voilà. Maintenant qu'on a été honnête.
Et d'ailleurs, je pense que c'est l'aspect important, parce que la politique, c'est des symboles. On voit bien aussi que les agriculteurs ne veulent plus se faire instrumentaliser. Et ils ne veulent surtout pas que le Salon de l'agriculture se transforme en espèce de musée d'une agriculture qui aurait disparu, ou d'une vision de l'agriculture qui aurait disparu.
Une déconnexion.
En effet, ce caprice d'Emmanuel Macron, ils n'ont pas voulu s'y soumettre, et ils ont bien fait, parce qu'ils ont terriblement souffert des décisions qui ont été prises. Ce n'est pas seulement les décisions d'abattage en tant que telles. Il peut y avoir des mesures de quarantaine, de protection, etc., jusqu'à éventuellement des mesures d'abattage. Mais là, on voit bien, comme toujours, que l'État, de manière brutale, de manière unilatérale, sans discussion, sans respect pour les éleveurs, sans respect pour leur travail, sans respect pour leurs troupeaux et l'attachement légitime,
même parfois de leur travail.
Et souvent avec une méconnaissance technique, quoi qu'ils le prétendent, en effet, eh bien, ils ont imposé ça. Et puis quand les éleveurs se sont révoltés et irrités légitimement de cette méthode, eh bien, ils ont envoyé les CRS. Et c'est ça qui est absolument insupportable. S'il y a, à un moment donné, des mesures vétérinaires, sanitaires à prendre qui sont douloureuses et difficile, on peut le concevoir. Mais il y a aussi la manière de faire. Et c'est ce qui est insupportable dans la France de Macron, c'est que l'agriculteur, et d'une manière générale, les honnêtes gens, les personnes solvables, eh bien, sont maltraités et les voyous sont protégés, sont défendus, tout ça pour acheter la paix civile. Et c'est ça qui est absolument insupportable. Alors, pour revenir au sein de l'agriculture, eh bien, on sent à la fois des agriculteurs qui... C'est des moments très agréables, parce qu'on voit à quel point l'attachement qu'ils ont à leurs produits, à leur terroir, et ils en font une démonstration qui est magnifique. Tous les enfants doivent aller voir ça, doivent aller découvrir la France dans sa diversité des terroirs, des produits, etc. Et on voit que c'est une richesse absolument extraordinaire. Et en même temps, eh bien, ils sont évidemment inquiets, parce que tous, à des degrés divers, souffrent aujourd'hui. Et il y a une colère latente. On a un agriculteur qui se suicide tous les deux jours dans notre pays. Ils sont totalement aujourd'hui dépendants des aides européennes, ce qui est d'ailleurs mal, ça finit par être extrêmement malsain. Qu'il y ait des aides, bien sûr, c'est souhaitable, mais que le principe même soit de les rendre dépendants des aides pour leur imposer tout et n'importe quoi, y compris des modèles agricoles qui ne sont pas les nôtres, parce que c'est de ça dont il s'agit. Mmh. Souvent, la politique agricole commune a consisté finalement à spécialiser les pays. Parce qu'à Bruxelles, c'est des technocrates dans des bureaux gris qui décident, qui n'ont jamais vu souvent une vache de leur vie, hein, c'est un peu le problème. Donc ils disent, ben voilà, la France, ça va être les céréales, l'Espagne, ça va être la tomate et la pêche, et puis vous, ben les Français, la pêche française, on la sacrifie. Moi, en Normandie, ça a été un gros sujet, parce que les pêcheurs normands ont toujours le sentiment d'être oubliés, parce que dans le schéma de Bruxelles, la pêche, c'est l'Écosse, les pays du Nord, et l'Espagne, et les autres n'ont pas le droit de pêcher.
Alors, oui, 60% au moins dans ce qui est prévu.
Oui, exactement. Et en fait, le problème, c'est qu'ils sont dans une logique de spécialiser les pays pour avoir simplement, ensuite, à l'échelle européenne, à peu près toutes les productions. Mais un pays comme alors, il y a des pays à qui ça convient bien, si on va au bout de la réflexion, parce qu'il y a des pays qui sont d'abord géographiquement beaucoup plus réduits, petits que le nôtre, ensuite pour plein de raisons, richesse des terres, etc., ne peuvent pas forcément avoir une diversité agricole importante. Mais un pays comme la France, on a une très grande diversité. Et ce qui fait la force de notre modèle agricole dans l'histoire, c'était la polyculture. C'est-à-dire d'avoir sur une exploitation à taille humaine et une diversité des productions, de sorte que lorsqu'une année est mauvaise pour telle production, eh bien, le fermier, il n'est pas en faillite parce que le reste de sa production dans d'autres domaines est convenable. Ou des modèles avec une partie d'élevage et une partie d'agriculture ou de maraîchage, etc. Et casser ce modèle-là avec l'idée de faire des énormes exploitations agricoles avec une culture unique, ça met nos agriculteurs dans une situation de vulnérabilité considérable. Le moindre aléa sur le produit, sur leur production, eh bien, ils ne peuvent évidemment pas l'absorber eux-mêmes. Et donc, ils deviennent totalement tributaires des choix de Bruxelles et du bon vouloir dans la distribution des aides européennes. Voilà. Donc, c'est ce modèle-là qu'il faut combattre, c'est restaurer. Nous, la France, elle a une capacité d'autosuffisance alimentaire que nous avons perdue. Il faut quand même en avoir conscience. Mmh. Aujourd'hui, on a perdu notre capacité. On parle souvent de souveraineté énergétique, et on a raison. Un pays qui n'a pas sa souveraineté énergétique, qui n'a pas la capacité à produire son énergie, électricité, gaz, à des coûts raisonnables, eh bien, il est en danger parce qu'il est tributaire des autres. Mais en matière agricole, c'est vrai aussi. Celui qui n'est pas capable de nourrir sa propre population et ses propres enfants, eh bien, il se met en danger. Ou en tout cas, il est en situation de vulnérabilité, il est tributaire d'alliances, il est tributaire d'accords économiques et commerciaux. Voilà, nous, la France, on a cette chance d'avoir cette grande diversité agricole et un territoire suffisamment vaste. Et les Outre-mer y contribuent d'ailleurs largement pour avoir à la fois une très grande diversité et une autosuffisance. C'est ça qu'il faut défendre. Et ça fait des décennies maintenant que les gouvernements français ne défendent plus du tout à Bruxelles ça.
Et d'ailleurs, cette volonté de spécialiser les États membres dans tel ou tel secteur agricole ou céréalier va complètement à l'encontre de leur projet écologique, puisque, et pourtant, qu'est-ce que j'aime l'Italie, mais regardez la période des vendanges en France, dans les supermarchés, vous allez davantage avoir du raisin italien. Alors certes, l'Italie a une... sont nos voisins directs, très bien, mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas du raisin champenois, du raisin bordelais Non, il faut que nous ayons forcément d'autres pays, mais même hors période vendange, de fait. Vous avez toujours, dans certains supermarchés, des produits maraîchers qui viennent de l'étranger et parfois très très loin, même en dehors de l'Union européenne. Donc comment on peut expliquer cette contradiction écologique, enfin c'est vraiment un non-sens.
En réalité, il y a une logique mondialiste qui a consisté à dire maintenant on accepte de ne plus avoir de production industrielle chez nous, on renonce même à avoir une production agricole parce qu'on va faire fabriquer ça à l'autre bout du monde. Vous savez, on a entendu ça dans les années 90. Voilà, c'était la mondialisation heureuse, l'OMC, les accords du GATT, et puis donc la Chine va devenir l'atelier, l'usine du monde, etc. Toutes ces illusions absurdes. Et donc le résultat, et évidemment, ce qu'ils n'ont pas dit en défendant ça, c'est que c'était le modèle le plus anti-écologique qui soit. Et aujourd'hui, toute la journée, ils nous expliquent que Voilà, il faut toujours peindre en vert en permanence, et que la question écologique, elle n'est pas illégitime. Hein.
Mais elle est plus que légitime, de fait.
Relocaliser les activités humaines, c'est une garantie de contrôle, de traçabilité, de qualité. A fortiori, quand nous, on a des exigences de qualité en matière agricole qui sont très élevées, plus élevées qu'ailleurs, hein, même plus élevées que nos voisins. Je ne pense pas tant à l'Italie, mais par exemple
à
l'Espagne.
On
a des niveaux d'exigence de qualité plus élevés que l'Espagne. Voilà. Bon, donc, on doit se défendre. Mais pour ça, il faut sortir totalement du modèle qui consiste à dire on va faire venir des produits de l'autre bout du monde. Voilà. Et de la même manière, là, on parle d'agriculture, mais c'est vrai aussi en industrie. Si on veut retrouver de la souveraineté, il faut être capable de se réindustrialiser. Ce n'est pas forcément faire revenir l'industrie lourde, mais c'est être en pointe dans les industries de demain, dans les industries de pointe, de technique, de haute technicité. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de se faire totalement déclasser. Les États-Unis qui ont compris parfaitement ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils protègent leur marché, ils mettent en place des droits de douane, ils relocalisent les activités aux États-Unis. Alors, Trump le fait à sa manière un peu spectaculaire, un peu brutale, un peu exubérante. Mais bon, il défend ce qu'il considère être les intérêts américains. Et il a bien raison, puisqu'il a été élu pour ça. Mm-hmm. Voilà. Le drame, c'est que nous, on est les seuls sur la scène mondiale à ne pas défendre nos intérêts. Nous, on dit on veut sauver la planète. Au nom de sauver la planète, on empêche nos producteurs, nos industriels et nos entrepreneurs de travailler dans des conditions qui leur permettent d'être compétitifs. Et puis, pendant ce temps-là, c'est pas seulement la Chine ou les États-Unis aujourd'hui qui sont en train de nous dépasser. C'est le sous-continent indien, c'est de très nombreux acteurs. C'est l'Europe qui a été moteur, qui a été la civilisation qui a rayonné le plus, y compris sur le plan économique et commercial à travers le monde, et aujourd'hui en train de perdre totalement son rang. Et le seul moyen de retrouver notre rang, eh bien, c'est évidemment de sortir de ce modèle-là et donc relocaliser les activités humaines, ce qui est authentiquement écologique, en effet. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un vrai sujet de fond, de philosophie derrière tout ça, c'est qu'on a laissé l'écologie entre les mains des idéologues de gauche, alors que c'est une vraie valeur de droite. C'est une valeur parce que l'écologie, c'est finalement le conservatisme. C'est la conscience qu'on a un environnement à préserver dont on est les héritiers.
On a
un héritage culturel, philosophique, spirituel, européen, mais on a aussi un héritage naturel. On a une diversité de paysages absolument extraordinaire, etc. Et donc c'est ça l'écologie, la vraie écologie, elle est là. Et donc aujourd'hui, le modèle mondialiste qui est en fin de course, qui n'est plus imité nulle part, ou en tout cas qui est en train d'être dépassé partout. Eh bien, nous, on continue en Europe et à l'initiative notamment de Bruxelles de le défendre. Et Emmanuel Macron pense toujours à ce que la France soit le meilleur élève de la classe européenne. Vous l'avez vu d'ailleurs sur le Mercosur, c'est très intéressant. Sur le Mercosur, il faut quand même se souvenir de la chronologie des faits. Au départ, il était pour. Ensuite, Bolsonaro est élu président du Brésil. Donc, sous prétexte que c'est un adversaire politique, c'est un homme qui ne lui plaît pas, qui est président du Brésil, il dit « Ah bah maintenant, on est contre ». Il s'est dit « Je fais un bon coup, à la fois je tape un coup sur Bolsonaro et en même temps, je me mets dans la poche des agriculteurs ». Mais en réalité, sur le fond de philosophie politique, il était pour. Et ensuite, une fois que le Brésil a à nouveau changé de camp et que von der Leyen tord le bras à Macron, eh bien, en réalité, il cède. Et donc là, il a commencé à faire les gros yeux au Conseil en disant bah « Non, mais moi, je ne veux pas, je ne suis pas d'accord ». Mais il a plein de moyens aujourd'hui. La France, à la table du Conseil européen, a parfaitement le moyen de se faire respecter. C'est pas parce qu'il y a un vote qui se passe et qu'on est minoritaire qu'on ne peut pas se faire respecter. Si la France, demain, qui verse 26 milliards à l'Union européenne et qui en récupère à peu près 15, donc on a une ardoise nette de 11 milliards par an, auprès de l'Union européenne. Si la France dit, nous, on gèle notre contribution au budget de l'Union européenne tant qu'on ne se fait pas respecter sur Mercosur, eh bien, Ursula von der Leyen, elle est évidemment obligée de céder. Donc, en fait, on voit bien qu'il est uniquement dans le cinéma et dans l'affichage. Il explique qu'il veut défendre l'agriculture contre le Mercosur, mais il ne le fait pas.
Je voudrais juste rappeler que vous avez parfaitement souligné à quel point il y a une tradition. Par exemple, Radio Courtoisie a été fondée il y a quasiment 40 ans. C'est une belle tradition. On a envie de la défendre. N'hésitez pas, soutenir.rc.fr. Et nous aussi, on continuera à vous offrir non pas des poulets élevés au grain, mais des journalistes élevés en France et nourris avec de la laitue parisienne et toutes ces bonnes choses. Et pour continuer à vous donner de la vraie pensée à la fois conservatrice et réformatrice. Nicolas Bay, Vous nous parliez tout à l'heure de haute technologie. Quand on voit que Macron explique qu'on va développer une intelligence artificielle en collant 300 millions sur 10 ans, ce qui est à peu près la somme que OpenAI investit chaque jour, la haute technicité, on est largué. Mais si intelligents soyons-nous, si merveilleux soient les chercheurs de l'INRIA, pourquoi ne veut-on pas faire, au contraire, une flopée d'artisans, de PME et de PMI avec des petites industries de transformation. Ben, toutes nos machines-outils, on les achète en Allemagne, c'est quand même pas le diable et son train d'imaginer ça. À un moment donné, Renault le faisait. Donc on est capable aussi, de, pas uniquement de rêver d'intelligence artificielle et d'industrie de services et de médicaments de pointe, on est capable aussi de faire des trucs de bouseux et qui marchent très bien. Et qui emploie beaucoup plus de gens.
Bien sûr, et c'est ça d'ailleurs qui est rageant, c'est qu'on a des compétences extraordinaires. On voit bien que la France, elle regorge de compétences, de savoir-faire, des ingénieurs dans des domaines extrêmement variés, etc. L'entrave principale, c'est l'État. L'État qui devrait être moteur. Regardez ce que De Gaulle avait fait avec le nucléaire, par exemple. Et bien, l'État, il était à l'initiative politique, un choix technologique d'avenir, qui nécessite des fonds, des sommes importantes, évidemment, des investissements lourds, hein, s'agissant du nucléaire, par exemple, c'est évident. Mais ensuite, il laissait l'économie travailler. Il laissait les acteurs économiques et le talent s'exprimer. Alors qu'aujourd'hui, on fait le contraire. On a un État qui n'a plus aucune vision, qui ne fait que du court terme, que des pansements et qui jamais ne se projette sur le long terme. Voilà. Et de surcroît, il empêche les acteurs économiques de créer, d'innover. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un niveau de fiscalité qui est le plus élevé au monde. On en parlait tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'ils font, ceux qui ont des idées géniales, qui ont des brevets à déposer, qui ont... Eh bien, ils s'expatrient, ils se font acheter au prix fort par des industries ou des laboratoires ailleurs dans le monde, et notamment dans le monde occidental. Et donc, on perd nos compétences. La France, elle a chaque année des milliers et des milliers de Bac plus 10, de gens qui ont des compétences extraordinaires, qui s'en vont. Et puis dans le même temps, on fait venir une population sans diplôme, sans perspective d'emploi, qui vient peser sur nos comptes publics et nos comptes sociaux. Et comme elle pèse sur les comptes publics et sur les comptes sociaux, on dit on est obligé d'augmenter les impôts encore plus, et donc ça va faire encore plus fuir la première catégorie. Voilà, donc on marche sur la tête.
J'aimerais vous entendre sur le conflit... Russo-ukrainien, vous avez voté contre une résolution qualifiant la Russie d'État sponsor du terrorisme en 2022. 4 ans plus tard, comment analysez-vous l'évolution de cette guerre et la stratégie européenne, notamment en matière de sanctions ?
Le drame, c'est que l'Europe est sortie du jeu. En réalité, les nations européennes... ont été absentes, et c'est parce qu'elles ont été absentes et qu'elles n'ont pas été capables de faire entendre une voix singulière que cette guerre a eu lieu. Il ne faut pas l'oublier, bien sûr, je ne suis pas en train d'exonérer la responsabilité de Poutine, il a fait un choix qui est l'invasion militaire de l'Ukraine. On peut évidemment condamner ça. Mais si les nations, les principales chancelleries européennes et encore l'Union européenne ne s'étaient pas alignées totalement sur la politique des démocrates américains avec les sanctions, en permanence, comme une solution magique, qui n'ont fait que à la fois nous affaiblir économiquement, parce qu'à chaque fois qu'on mettait des sanctions contre la Russie, on avait des embargos sur un certain nombre de nos produits agricoles, notamment. Mais on a créé une situation de conflit qui est devenue progressivement irréversible. On avait un rôle diplomatique à jouer. Il a été d'ailleurs en partie joué à une époque, au moment où on a négocié les accords de Minsk 1 et de Minsk 2. Après, il aurait fallu les faire respecter par les deux parties. Ça n'a pas été fait. Et ensuite, au lieu de s'aligner sur la politique américaine, eh bien, on aurait dû être capable de dire, nous, les Européens, on doit trouver le chemin à la fois pour protéger l'Ukraine, mais en même temps pour avoir un partenariat avec la Russie, qui est un allié naturel. C'est un phénomène à la fois historique et géographique. Il ne faut pas oublier que l'Europe est finalement un cap au bout du continent asiatique. Et c'est la géographie qui fait l'histoire, souvent, il ne faut pas oublier. Donc on est obligé, on n'a pas le choix. On a ce voisinage avec la Russie qui fait qu'on est en quelque sorte obligé de s'entendre. Donc on aurait dû tout faire pour éviter cette guerre. On n'a rien fait, on n'a créé aucune des conditions pour éviter cette guerre. Et donc maintenant, on se retrouve dans cette situation où il faut trouver une solution pour qu'elle s'arrête. Et il faut dire ce qui est, les nations européennes, aujourd'hui, sont hors du jeu, hors de la discussion.
Vous voulez dire que la coalition des volontaires ne sert à rien ?
Je pense qu'elle ne sert pas à grand-chose d'autre aujourd'hui qu'à maintenir un soutien financier à l'Ukraine qui empêche, comme seule vraie utilité, d'empêcher que la Russie continue de progresser sur le territoire ukrainien. On a en réalité, à quelques nuances près, la ligne de front qui s'est totalement figée depuis maintenant longtemps, depuis maintenant plus de 2 ans. S'agissant d'une résolution de ce conflit, on voit bien que la posture de certains consistant à dire « il faut que l'Ukraine gagne » est totalement illusoire, au sens où jamais l'Ukraine ne pourra être en situation de reconquérir le territoire qu'elle a perdu. Et donc on peut évidemment trouver ça moralement inacceptable, mais c'est une situation de fait qui s'impose à tous. Et on voit aujourd'hui que toute la discussion se fait entre l'Ukraine, la Russie et les États-Unis, et c'est que... Et pour l'instant, d'ailleurs, sans succès spectaculaire, hein, il faut bien le dire, mais on voit que l'Europe, qui aurait dû être normalement en première ligne dans la résolution du conflit, mais sa nécessité d'avoir maintenu les canaux diplomatiques avec les deux parties, eh bien, aujourd'hui, n'est plus en situation de le faire, et donc c'est les Américains qui ont pris le relais. Alors, voilà, et ce sera sans doute à notre détriment, parce qu'il est évident que, de ce qu'on voit des plans de paix, l'Ukraine semble désormais accepter qu'une partie importante de son territoire soit définitivement amputée, c'est d'acter une situation qui est déjà une situation de fait. Mais on voit aussi que les Américains, dans tout ça, cherchent évidemment à faire main basse sur une partie des terres rares en Ukraine, etc. Et donc c'est l'Europe qui va être le dindon de la farce, en quelque sorte. Et c'est ça qui est navrant. C'est qu'on aurait dû avoir ce qu'on a toujours eu, et notamment la France dans l'histoire, une position non alignée. Certes, alliée des États-Unis sur le plan militaire, mais non aligné sur le plan géopolitique. On oublie tout ça, on oublie que De Gaulle était capable d'aller parler avec Tito,
avec
Ceausescu, et même avec Moscou, exactement, et avec Mao. Et évidemment, il était en désaccord politique avec eux, évidemment. Il était allié des États-Unis, mais il était capable d'avoir cette voix singulière sur la scène mondiale. Et ça, c'est quelque chose que nous avons totalement perdu. On s'est aligné sur les démocrates américains et aujourd'hui, on n'a pas pu éviter le conflit et on ne peut pas contribuer efficacement à la résolution du conflit. Et de surcroît, l'Amérique ayant changé de bord politique, Trump n'a aucune raison de faire des cadeaux à ceux qui ont été les principaux soutiens de ses adversaires à lui.
Est-ce que justement le sujet, c'est pas, du moins pour, on va dire, la France, on n'a pas perdu ces grandes figures, justement, politiques, cette notion du grand débat? C'est quelque chose que, très souvent, justement, les politiques citent le général de Gaulle. C'est un peu la dernière grande figure, si je puis dire, que l'on soit en accord ou pas avec ses idées, c'est pas le sujet, mais c'est la grande figure qui était capable d'aller au front, si je puis me permettre cette expression militaire, justement, mais qui était capable de débattre avec ses adversaires. C'est quelque chose qu'on a perdu, j'ai l'impression, aujourd'hui.
Oui, et puis je pense que c'est... Je ne sais pas si c'est une cause ou une conséquence. Est-ce qu'on n'a plus de grandes figures françaises capables de peser sur la marge du monde? Est-ce que c'est parce qu'on n'est plus capable de générer des personnalités un peu exceptionnelles, ou est-ce que c'est pas simplement parce que la France est tellement affaiblie par l'immigration, tellement affaiblie par la dilution de toutes ces forces vives, par l'affaiblissement économique, etc., que finalement, elle ne peut plus peser comme elle pesait dans le passé. Parce que ce qui est vrai, c'est que la France de De Gaulle, il y avait certes la personnalité de De Gaulle, mais il y avait aussi un pays qui était une grande puissance, reconnue comme telle. Et aujourd'hui, la France a encore une voix qui est parfois écoutée, entendue, parce que le poids de l'histoire, le prestige, en quelque sorte, historique de notre pays est encore un peu considéré sur la scène internationale, mais souvent c'est quelque chose qui est devenu assez fragile parce que la France a plus les moyens de ses ambitions et souvent elle n'est même plus capable d'exprimer ses ambitions. Donc ça pose le problème de tout reconstruire et c'est pour les patriotes que nous sommes, et là je parle toute sensibilité confondue, aujourd'hui il y a nécessité de tout reconstruire et si demain notre famille de pensée parvenait aux affaires, la tâche serait évidemment immense. Pour restaurer la France dans tous ses aspects, dans toutes ses dimensions, avec un contexte difficile. C'est vrai, ce sera des sacrifices. Hein, et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de Français sont capables d'entendre ce discours. Je pense que ce qu'ils ne supportent pas, c'est qu'on leur demande des sacrifices pour rien. des sacrifices qui n'ont pas de sens, qui n'aboutissent pas à une puissance, à un rayonnement collectif. Mais, si, mais ce qui est sûr, c'est que demain, on ne pourra pas continuer notre système actuel, un système de, comment dire, social qui permet à des gens qui ne veulent pas travailler de ne pas travailler, qui permet aux voyous et aux délinquants de bénéficier d'une impunité totale. Voilà. Tout ce modèle-là, il va disparaître. Et il faut qu'ils disparaissent parce que le renouveau de la France passera nécessairement par la disparition de toutes ces dérives et tous ces travers.
Alors Nicolas Bay, en tant que aussi eurosceptique convaincu, vous avez salué à un moment le Brexit. Hein, 8 ans après, quelle leçon l'Europe devrait-elle tirer de cette sortie et envisagez-vous d'autres, on va dire, exits si l'UE ne réforme pas son fonctionnement?
Oui, il faut, j'en ai parlé tout à l'heure, je ne veux pas être trop long là-dessus, mais il faut tout changer dans le fonctionnement des institutions européennes. En gros, aujourd'hui, la Commission européenne, qui est l'institution la moins démocratique, a le plus de pouvoir, pour faire simple. Hein. On a 3 grandes institutions européennes, la Commission, le Parlement, le Conseil. Mm-hmm. La Commission accapare l'exclusivité de l'initiative législative. Ce n'est pas le cas, par exemple, le gouvernement français, il peut faire des projets de loi, mais l'Assemblée peut faire des propositions de loi. Bon, là, dans les institutions européennes, l'exclusivité de l'initiative, c'est la Commission. Alors que la Commission, c'est une espèce de sombre mercato pour désigner son président ou sa présidente, en l'occurrence. Et puis ensuite, ces 27 commissaires que personne n'a élus et personne ne connaît, mais qui ont un pouvoir immense. Hein, il faut quand même le comprendre. Et ça se fait au détriment du Parlement et du Conseil. Le Parlement, il est élu démocratiquement à la proportionnelle intégrale dans tous les États membres. Alors, évidemment, il n'a pas encore tout à fait une majorité comme on la voudrait, mais bon, il faut reconnaître que c'est une institution démocratique. Et puis, le Conseil, ben, c'est les chefs d'État et de gouvernement qui, par définition, ont la légitimité démocratique dans chaque État membre. Donc, comment rééquilibrer ? Ben, il faut diminuer le pouvoir de la Commission, il faut que la Commission soit limitée à être une sorte de secrétariat du Conseil, en quelque sorte, et que les grandes décisions soient prises dans l'intergouvernemental. Et je pense que le plus fondamental, pour être efficace et agile quand il y a des crises, crise migratoire, crise financière, crise sanitaire, on a vu à chaque fois que l'Union européenne n'était pas capable d'être réactive. Pourquoi ? Parce que, il voulait absolument le faire en intégration totale. On peut très bien avoir une Europe des cercles, en quelque sorte. Tel projet, il y a 12 pays qui se mettent ensemble, tel autre projet, il y en a 8, qui ne sont pas forcément les mêmes, etc. Et ça permet de respecter les spécificités de chacun, les souverainetés nationales, ce qui n'est pas rien, et puis en même temps d'avancer vite dans un certain nombre de projets. Et même si c'est des exemples qui sont maintenant un peu anciens ou datés, ils restent pertinents. Ariane ou Airbus, c'est ça. C'est des conglomérats industriels, quelques pays qui se mettent ensemble et qui arrivent à produire un grand succès industriel.
Le SCAF, par exemple.
Là, on ne peut pas dire... on voit bien. Ce n'est pas inintéressant comme remarque, parce que...
Merci.
En effet, c'est en train de prendre l'eau totalement parce qu'on a voulu ne pas le faire exclusivement en intergouvernemental. Alors qu'on est dans des domaines qui sont ceux de la défense, qui nécessitent que les États aient totalement la main parce que, et que ce soit à aucun moment organisé à l'échelle de l'Union européenne. On voit bien, il y a derrière tout ça, derrière l'affaire du SCAF, l'idée hein, quand même de faire une espèce de défense européenne. Voilà. Alors qu'on peut avoir des alliances militaires, on peut avoir des partenariats très forts, des exercices communs, ça existe déjà d'ailleurs, hein, mais la défense, c'est une prérogative de souveraineté. Et personne ne veut que demain, ce soit Ursula von der Leyen qui décide d'aller verser le sang de nos soldats. Voilà, c'est inenvisageable.
Et ça ne fait pas partie des traités, d'ailleurs.
Et puis, oui, bien sûr, exactement. C'est hors compétence de l'Union européenne, totalement. Vous avez raison de le rappeler. Et puis, la politique de défense est tellement sensible et tellement liée aux particularités de chaque nation que la mutualiser est impossible. Et enfin, j'ajouterais que si on fait une défense européenne, maintenant que les Anglais sont sortis, ça aboutirait en pratique à une mutualisation de l'armée française au bénéfice de tout le monde, puisqu'on est les seuls qui avons la totalité des composante d'une véritable armée à l'échelle de dimension pour les défis mondiaux. C'est-à-dire, on est les seuls à avoir l'arme nucléaire, on est les seuls à avoir non pas seulement des capacités de défense de notre territoire, mais des capacités de projection, et on est les seuls à disposer d'un réseau diplomatique mondial qui est aussi indispensable que l'outil de défense lui-même quand on veut intervenir à bon escient dans des conflits, a fortiori loin de notre territoire. Donc si la France a encore cela, fragile mais encore, il faut reconnaître. Si demain, on est dans une espèce de mutualisation, on voit bien que ça aboutirait pas du tout à ce que tous les pays européens fassent un effort de défense considérable. Ça aboutirait simplement à ce que, et d'ailleurs ça a déjà été évoqué, hein, l'Allemagne et la Commission européenne ont déjà évoqué l'idée du partage du siège de la France au Conseil de sécurité de l'ONU, alors que ce siège au Conseil de sécurité de l'ONU, on le doit pas précisément parce que nous sommes une puissance nucléaire.
On le doit aussi parce qu'on a mis la pâtée aux Boches en 44-45.
Oui, enfin, on a été un peu aidé d'ailleurs.
Oui, mais on a été un peu aidé. Il y a 300 000 Français qui l'ont fait. On va pas.
Voilà,
pas que les Américains qui ont reconquis le territoire français.
On a une légitimité historique.
Et le fait que Merz maintenant soit en train d'expliquer à Macron que ce serait pas mal de partager la puissance nucléaire, c'est absolument stupéfiant.
Le choix d'investir des sommes considérables à l'époque dans la recherche, l'investissement pour disposer de l'arme nucléaire et maintenir cette dissuasion nucléaire en continu depuis des décennies, eh bien évidemment, c'est parce que la France a fait cet effort-là et a eu ce talent-là qu'elle a un siège au Conseil de sécurité de l'ONU aussi.
Il nous reste vraiment très 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 peu de temps, c'est dommage. Je voulais parler de l'IVG qui est un... Est-ce pour vous un droit fondamental ou un choix qui mérite d'être questionné, la GPA et l'euthanasie?
Alors là, ça fait beaucoup de sujets pour peu de temps, mais ce qu'on peut dire simplement, c'est que je pense qu'aujourd'hui, je pense pas qu'il soit envisageable aujourd'hui de dire qu'il faudrait remettre en cause le principe pour les femmes d'avoir recours à l'IVG. En revanche, il faut créer les conditions pour qu'elles aient le véritable choix. Et donc le véritable choix, c'est aussi celui de pouvoir garder l'enfant qu'elle porte, y compris lorsqu'elles sont dans une situation soit psychologique, soit économique difficile. Et on voit bien aujourd'hui que derrière l'inscription de l'IVG dans la Constitution française, la volonté aussi de le faire dans la Charte des droits fondamentaux au Parlement européen, j'ai évidemment voté contre, il y a cette volonté de transformer quelque chose qui, dans l'esprit de la loi Veil initialement, était un recours ultime dans des situations très difficile, on voit qu'il y a une volonté de le transformer comme quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Et je pense qu'y compris, et peut-être à commencer par les femmes qui ont eu recours à l'IVG, je pense que personne aujourd'hui ne peut dire que c'est une bonne chose, que c'est un bien. Et donc, donc il faut surtout créer toutes les conditions pour diminuer, et c'est le grand échec d'ailleurs, il faut bien le dire, des législations successives sur l'IVG, hein, pas seulement la loi Veil, hein, aussi les lois suivantes, Neyert, etc. Finalement, le but, c'était, on était à 200 000 IVG par an en 1975, aujourd'hui, on est toujours au niveau de ce chiffre, à peu près à ce chiffre, et peut-être même un peu au-delà.
Un peu au-delà,
Le moins qu'on puisse dire, c'est que la loi Veil n'a pas... la législation, pas seulement la loi Veil, la législation sur l'avortement n'a pas du tout permis d'en diminuer le nombre, alors que c'était le but affiché initial. Et donc, il faudrait peut-être revenir à cet esprit-là.
Eh bien, merci mille fois Nicolas Bay, merci à vous tous de nous avoir écoutés, et demain, vous retrouvez Arthur de Vatrigan pour un nouveau Restons Courtois.
Ça suffit maintenant !